ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Mais en nous préparant pour cela, nous allons lire l'expérience de Pierre quand il a été justement induit dans la tentation. Matthieu chapitre 26, et nous lirons les versets 30 et suivants, avant de sauter un peu pour lire le reste de l'histoire. Donc je commence au verset 30. C'est la nuit avant la mort de notre Seigneur. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. » Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Ça vous choque? En d'autres termes, je suis meilleur que tous les autres. D'accord? Même si il t'abandonne, moi jamais. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, toi, tu me renierais trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierais point. » Et tous les disciples dirent de même, tellement ignorants de leur faiblesse, tellement ignorants de leur vulnérabilité. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. » Rappelez-vous que tout à l'heure, nous étudierons la prière du Seigneur où nous sommes enseignés à prier. Ne nous induis pas en tentation. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouvait encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles et ainsi de suite. Donc nous reprenons et nous terminons la lecture à partir du verset 69 et nous allons voir ce qui s'est passé à Pierre cette même nuit. 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Donc celui qui a dit que je ne te renierai jamais, une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-là-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renierais trois fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Nous pouvons voir, d'après l'expérience de Pierre et sa piété bien imparfaite, que notre seule justice dans laquelle nous pouvons tenir devant Dieu, ce n'est pas la nôtre, même notre justice chrétienne, mais seule la justice parfaite du Christ est notre vêtement devant Dieu. Et nous allons chanter ça dans le carnet noir. Donc je crois que vous avez probablement vers la fin. Je vous invite à trouver l'évangile de Matthieu et le chapitre 6. Après plusieurs semaines d'études de cette prière du Seigneur, nous allons terminer ce matin en étudiant la dernière requête, qui est une requête double, une requête à deux parties. Mais nous allons lire la prière dans sa totalité cette fois. Et nous commençons en Matthieu 6, verset 7. C'est le Seigneur qui nous parle et qui nous commande en ces mots. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, ou plus exactement, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il est intéressant que nous ne prions pas au sujet du mal et du péché jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la prière du Seigneur, c'est une prière qui aurait pu être priée avant la chute, dans un monde où il n'y a pas de péché ou de mal. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien. Mais à la fin, oui, effectivement, nous qui sommes pécheurs et dans un monde de péché, nous devons faire face à toute cette réalité. Nous avons, la dernière fois, parlé de cette demande de pardon de nos péchés. Mais nous allons avancer vers cette dernière requête et la traduction est vraiment différent dans les versions différentes. Je vous donne quelques exemples et ce n'est pas très heureuse cette traduction. Elle n'est pas très heureuse dans certaines traductions. Par exemple, la Nouvelle Bible Seconde traduit « ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais ». C'est pas très bien. Moi, je trouve même simplement en français « du mauvais ». Mais l'épreuve, le mot grec, signifie à la fois l'épreuve et la tentation, mais il n'y a aucun doute ici que dans le contexte, Jésus est en train de parler de la tentation. Je vais revenir sur ce mot et ses deux sens, épreuve, tentation, tout à l'heure. La colombe dit « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». C'est diluer un peu, le verbe n'est pas « ne nous laisse pas », mais il est beaucoup plus fort, « ne nous induit pas ». Le verbe grec signifie littéralement « porte ». « Ne nous porte pas dans la tentation ». C'est un mot actif ici. Et certains traducteurs pensent être plus sages que le Seigneur lui-même et ils ne veulent pas que ce sens soit attribué à Dieu qui puisse nous induire dans la tentation. Mes chers amis, il peut le faire. Nous verrons comment. La nouvelle, le Tob dit « ne nous conduit pas », très bien, c'est ça le verbe, « ne nous conduit pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur ». C'est joli, tentation, tentateur, mais ce mot n'est pas tentateur, c'est simplement le mot pour mal ou malin. Ça peut vouloir dire les deux en dépendant de la construction. Il est dans le masculin, il est toujours le malin, donc le diable. Et probablement, c'est ça ici. Nous avons un petit problème parce que ici, la forme grammaticale est la même pour le masculin et le neutre. Donc, on ne sait pas si ce mot est en masculin ou en neutre. En neutre, ça veut dire le mal. En masculin, ça veut dire le malin. Mais la plupart des commentateurs pensent que Jésus est en train de nous dire de prier que nous soyons délivrés du malin. Mais ça ne change pas grand-chose dans notre compréhension et dans notre prière parce que nous savons que le malin est derrière le mal. Donc, je vous ai dit que, et là je suis en train d'introduire simplement le sujet, que ici, nous avons les deux seules requêtes qui sont liées par le mot « mais ». Dans ce qui précède, c'est le mot « et », c'est une liste. « Donne-nous notre pain quotidien » et « pardonne-nous nos péchés » et « ne nous induis pas dans la tentation » mais « délivre-nous du mal ». Ça veut dire que ces deux dernières requêtes « ne nous induis pas dans la tentation » mais des livres du mal sont liés. C'est pas juste une liste. Et la deuxième demande explique la première. Ne nous induis pas dans la tentation, mais au contraire, délivre-nous du mal ou du malin. D'accord? Donc c'est pour ça que nous les regardons ensemble. Et nous pouvons dire, ne nous laisse pas empêtrer dans la tentation, Seigneur, mais plutôt sors-nous, délivre-nous de ces tentations qui vous attaquent aujourd'hui et toujours. D'accord, ok, avec cette introduction, je vais aborder le deuxième point sur votre fiche si vous l'avez, mais juste en vous disant que, attention, nous sommes devant une requête de la plus haute importance pour notre vie quotidienne. Moi, je peux vous parler de personnes dont les visages me viennent à l'esprit en ce moment, qui ont cru pour un temps, pour utiliser la phrase de Jésus dans la parabole du sémeneur, mais quand est venue l'heure de la tentation, ils ont échoué. Montrant ainsi, je crois que leur foi du début était fausse. Mais la tentation, je peux vous donner aussi d'autres exemples d'amis, de bons amis qui sont entrés dans la tentation et qui ont perdu leur ministère pastoral. Moi, j'ai des collègues pasteurs qui ne sont plus pasteurs et qui ne le seront plus à cause de fautes graves et scandaleuses. Parce qu'ils sont entrés dans la tentation et sont tombés. Nous, le Seigneur nous dit que nous avons besoin tous les jours de prier à ce sujet. Même si nous ne chutons pas de manière scandaleuse, souvent la vie de bien des chrétiens reste dans un état médiocre. Médiocre. Parce qu'ils sont emmêlés, englués dans la tentation dont il n'arrive pas à sortir. Ok, donc le point 2. Quelques leçons générales tirées de la présence de cette requête. Donc, nous devons être préoccupés dans nos prières, vous et moi. Est-ce que vous priez non seulement au sujet de vos péchés, en demandant pardon, péchés commis, mais aussi vous priez au sujet de vos tentations pour ne pas en commettre de nouveau? Parce que vous savez que si vous ne priez que pour au sujet de vos péchés commis, en demandant le pardon, vous allez répéter ces péchés constamment. Dès que vos dettes vous sont remises, le diable veut vous pousser à encourir de nouvelles dettes. Et donc c'est pour ça que vous devez prier non seulement au sujet du péché commis, mais au sujet des tentations futures à laquelle vous devez faire face. Je ne sais pas si vous priez comme ça. Vous priez bibliquement. Ne nous induis pas dans la tentation. Si nous voulons ne pas pécher, nous devons parler à Dieu au sujet de nos tentations présentes et futures. Et je dirais que si vous ne vous préoccupez de la tentation, si vous n'avez pas grand-chose à faire avec la tentation dans vos prières à Dieu, la tentation aura grand-chose à faire avec vous dans votre vie. Vous vous rappelez de la situation de Caïn? L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» Genèse 4, 6 et 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. » La tentation n'est pas une chose neutre, mais nous sommes dans un monde où le péché est couché à ta porte. De par tes désirs pécheurs innés, de par l'activité du diable lui-même, de par les sollicitations du monde. Et donc, si vous ne faites rien là-dessus, le péché fera quelque chose, certainement. Donc, je dois me demander et vous demander cette tentation que vous avez à la colère. Est-ce que vous priez au sujet de cette tentation? Ou cette tentation de culpabilité, d'avarice? Ou cette tentation vis-à-vis de l'inquiétude ou la peur? Ou cette tentation que vous avez de manière récurrente à chercher la gloire? Ou cette tentation à rester dans une fausse croyance que vous commencez à savoir que c'est faux, mais vous ne voulez pas lâcher, parce que c'est dur d'avouer que vous avez cru ce qui était faux. Quelle est votre situation? Une convoitise? Est-ce que vous priez au sujet de ces tentations? Le Seigneur nous dit que nous devons le faire. Troisième point. Qu'est-ce que la tentation? Rapidement. Je vous ai dit qu'il y a deux sens à ce mot que Jésus utilise. Il y a l'épreuve. L'épreuve, c'est proprement dit tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui est dur. Même si ce n'est pas quelque chose de mauvais. Par exemple, une maladie n'est pas un péché, mais c'est une épreuve. Mais toute épreuve, parce que vous êtes pécheur, devient occasion de tentation aussi. Je vous donne un exemple. La pauvreté, c'est une épreuve. Mais la pauvreté, parce que nous sommes pécheurs, cette épreuve devient aussi une tentation. Parce que l'homme pauvre est tenté de prendre ce qui n'est pas à lui, de voler ou de tricher pour avoir ce qu'il n'a pas, n'est-ce pas? Et donner d'autres exemples. Mais la tentation dont Jésus parle ici, priez que vous ne soyez pas induits dans la tentation, ce mot signifie ce qui a pour but de nous amener à faire le mal, à ne pas aimer Dieu, à ne pas le suivre de tout cœur, à ne pas aimer ton prochain, à faire le mal, à mentir, à convoiter, à ne pas vivre dans la lumière. D'accord? Et Jésus est en train de nous dire, ne nous induis pas dans la tentation à pécher. Ne vous affole pas, nous allons voir tout à l'heure que Dieu ne tente personne. Mais il peut induire dans la tentation d'une manière indirecte. Donc, ces deux réalités sont liées, mais Jésus nous demande de prier contre la tentation spécifiquement. Quatrièmement, qu'est-ce que ça signifie « entrer dans la tentation » ? C'est là que vous devez faire attention. Ne nous induis pas en ou dans la tentation. Ce n'est pas une prière de ne pas être tenté. Vous ne devez pas et vous ne pouvez pas prier, « Seigneur, je prie que je ne sois pas tenté. » Ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Vous serez tenté. Je vous donne juste un exemple. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde sans tentation et vous ne pouvez pas demander. Le seul endroit où vous ne serez même pas tenté, c'est au paradis. Même la tentation ne sera plus là. Mais vous connaissez bien ce verset. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera le moyen d'en sortir. » Avec la tentation. Votre vie est une vie avec tentation. Ok ? Donc, ne demandez pas que vous ne soyez pas tenté. C'est une chose d'être tenté, c'en est une autre d'entrer dans la tentation. Et je vais vous montrer pourquoi on fait cette distinction. Donc, entrer dans la tentation, ce n'est pas être tenté, ce n'est pas non plus être vaincu par la tentation, de sorte que vous péchiez. Je le dis parce que Jésus est entré dans la tentation, dans le désert avec Satan, mais il n'a pas péché. L'Esprit de Dieu, dit Matthieu, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté et subir de plein fouet la puissance tentatrice de Satan. Ok? Mais entrer dans la tentation signifie ceci. C'est lorsque Dieu vous laisse exposer au plein fouet de la tentation dont vous êtes dispensé la plupart du temps parce que Dieu vous protège d'avoir ce plein fouet. C'est le fait d'être exposé au plein fouet de la tentation, d'être pris par la force de cette tentation de sorte que vous êtes empêtré et retenu dans les sollicitations de cette tentation sans pouvoir vous en dégager facilement. Je n'ai pas dit que vous avez péché. Souvent, lorsqu'un homme et une femme entrent dans la tentation, ils pêchent, elles pêchent. Mais je ne peux pas dire que ça arrive tout le temps parce que j'ai aucune raison pour le dire. Mais il y a une réalité que Jésus appelle entrer dans la tentation. Et je ne peux pas vous donner toutes mes raisons pour le définir ici. Un puritain anglais du XVIIe siècle qui s'appelle John Owen, qui était appelé le prince des théologiens, a fait tout un traité là-dessus et il donne des preuves bibliques pour cet enseignement. Mais je dirais que voilà la différence pour illustrer. Vous êtes au gymnase, vous êtes en train de marcher. Et quelqu'un est en train de ranger la salle, ne vous a pas vu. Il a jeté des cordes pour grimper à vos pieds. Et là, vous voyez, et vous avez les pieds autour de vous, et vous levez, les cordes autour de vous, et vous levez les pieds pour ne pas tomber, ne pas être pris dans les cordes. Ça, c'est comme le fait d'être tenté, mais entrer dans la tentation, c'est comme si quelqu'un jette ses cordes à vos pieds et ses cordes prennent vos pieds, vous enlacent de sorte que vous n'arrivez pas à lever les pieds et à continuer à marcher. Vous êtes entremêlés maintenant. Vous êtes en prêtré maintenant. Et c'est un peu ça, entrer dans la tentation. Quand vous êtes tenté de manière ordinaire, vous arrivez à résister la tentation, à dire non par le Seigneur, et à tourner le dos et à continuer votre chemin. Quand vous entrez dans la tentation, Dieu, souvent pour vous châtier ou pour vous apprendre, il vous abandonne à vos forces, à vous, de sorte que vous expérimentez la pleine puissance de ces tentations et vous vous retrouvez incapable d'enlever cette pensée de la tête, cette pensée de convoitise, de colère, de rancune, de cupidité. Vous êtes empêtré dedans et malgré tous vos efforts, ça revient et vous êtes retenu par cette lutte et cette bagarre et cette difficulté. Nous arrivons au point 5. Pourquoi Dieu induit-il parfois les chrétiens en tentation? Parfois, c'est comme un châtiment pour le péché qui est déjà présent dans notre vie. Je vous lis Ecclésiaste 7, 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme, il parle d'une femme prostituée, une femme, oui, femme de vie mauvaise, plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Vous voyez ? J'ai vu dans ma vie à plusieurs occasions une chose qui m'a vraiment posé des questions. Des responsables dans des églises chrétiennes qui tombent dans l'immoralité sexuelle. Et chaque fois quand je pensais à ces personnes, ils avaient un problème particulier avec l'orgueil. C'est intéressant. Et je me demandais, est-ce que Dieu a permis qu'ils tombent dans la tentation de l'immoralité pour les châtier du fait d'être orgueilleux? En tout cas, l'homme qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Vous pouvez penser à Lot dans l'Ancien Testament. Lot, Abraham lui dit... Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je choisis la partie du pays que tu veux. Et qu'est-ce que Lot, le jeune neveu d'Abraham, fait? Il choisit la région la plus verdoyante et formidable, n'est-ce pas? Sauf que c'est le pays de Sodome et Gomorre. Et là, il entre, pendant des années, il entre dans la tentation. Et le Nouveau Testament dit que son âme est perturbée par l'injustice dans laquelle il est obligé de vivre. Mais tout cela, c'est à cause de sa propre faute de cupidité. Vous pouvez penser à Pierre. Comment est-ce que Pierre va pouvoir marcher avec Jésus-Christ avec une attitude tellement sûre de lui-même, même si tous les autres t'abandonnent? Pas moi. Il est impossible de marcher avec Christ si vous avez une attitude comme ça et moi. Sauf que nous l'avons. Nous ne réalisons pas, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes incroyablement vulnérable à tous les péchés et moi aussi. À quel point vous êtes faible. Si vous saviez, vous prieriez. Beaucoup plus cette prière, Seigneur, ne m'induis pas dans la tentation. Ne permets pas que je sois exposé au plein fouet de la tentation. Mais heureusement, Pierre, il va aller pleurer amèrement, n'est-ce pas? Et trois fois, il renie le Seigneur, lui qui pensait être meilleur que les autres. Et quelques jours plus tard, autour d'un feu sur une plage, Jésus lui demande trois fois, celui qui a renié trois fois, Pierre, m'aimes-tu? Et la première fois, il dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Le Seigneur a induit, c'est-à-dire il a livré, il n'a pas tenté Pierre lui-même, parce qu'il ne tente personne, mais il a livré Pierre à une situation, il a permis à Satan de venir vers lui avec le point fouet d'une tentation, et afin que Pierre apprenne sa grande faiblesse et aussi qu'il se repente de son arrogance. Comment est-ce que Dieu induit les chrétiens en tentation parfois? Non pas en nous tentant nous-mêmes. Dieu ne fait jamais rien pour nous pousser vers le mal, vers le mensonge, vers le vol, vers la convoitise, vers l'immoralité, vers la fausse croyance. Il ne fait jamais rien parce que Dieu déteste le mal et il est trop saint. Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. D'accord? Si vous avez été tenté, si vous êtes entré dans la tentation et vous êtes tombé, ne regardez pas vers Dieu comme responsable. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise mauvaise. Mais parfois, Dieu permet que Satan vous tente d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous vous rappelez de la situation de Job? C'est un passage très très important pour nous, pour comprendre cette prière aujourd'hui, parce que, attends, je vais juste trouver dans le chapitre 1 de Job. Oui. Alors, donc, l'Écriture nous dit que dans le premier chapitre de verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, son troupeau se répand dans le pays, mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. » Et dans le deuxième chapitre, il y a une deuxième rencontre après la première épreuve de Job. L'Éternel lui dit la même chose, « As-tu remarqué, je suis dans le deuxième chapitre, verset 3, « As-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, l'homme intègre et droit qui craint Dieu, etc. » Satan répondit à l'Éternel, « Pau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais tend ta main, touche ses os et sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. » Et Satan est en train de dire, bah, « tu le protèges. » Beaucoup de ce que je pourrais lui faire, c'est pour ça qu'il est tellement droit, c'est qu'il n'a jamais eu à affronter le plein fouet de ce que je pourrais lui faire. Mais laisse-moi de l'espace pour travailler, tu verras. Et c'est un peu comme cela, ce n'est pas Dieu qui va aller tenter Job ou l'éprouver ou le frapper de maladie, c'est Satan qui va le faire. Mais Dieu le laisse faire pour des raisons saintes, sages, très sages et insondables. Insondables à nous. Ou vous pouvez penser à David qui a fait l'adultère avec Bathsheba. Et il se retrouve dans une, maintenant, une situation où il entre dans une autre tentation. C'est laquelle? Celle de tuer son mari, n'est-ce pas? Il est venu dans une circonstance, un complexe de circonstances, où maintenant, elle est enceinte. Son mari ne veut pas, je l'ai fait revenir de la guerre. Pour qu'il couche avec sa femme, pour qu'il pense que c'est lui qui, a qui est la source de cet enfant, il veut pas coucher avec sa femme. Je suis maintenant en danger. Et les tentations viennent de deux côtés. Regardez, il y a cette attirance parce qu'il veut continuer son plaisir avec Bathsheba. Il est fortement attiré vers ça. Et deuxièmement, il est tenté par une crainte terrible. La crainte d'être exposé, on va découvrir ce que j'ai fait. Ou bien, si le mari découvre, peut-être il tirera vengeance sur moi. D'un côté, une attirance pécheresse, de l'autre côté, une crainte. Et pris dans l'étau, il entre vraiment dans une tentation dans laquelle il est englué. C'est pas une tentation ordinaire. Il est empêtré pendant des mois. Qu'est-ce que je fais? Il peut pas se dégager, se défaire de cette tentation. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Cela m'est arrivé de trop nombreuses fois dans ma vie, d'être dans une situation où je suis entré dans la tentation et pendant des semaines ou des mois. Et une même tentation à me retient et me tracasse et me met en péril. Pourquoi, et j'arrive à la fin, pourquoi devons-nous prier donc que Dieu ne nous induit pas en tentation, mais plutôt qu'il nous délivre du mal? C'est-à-dire que nous ne soyons pas exposés à des situations particulièrement tentantes et à une puissance de plein fouet du tentateur. Mais que nous puissions continuer notre vie un peu couvée, excusez-moi, un peu protégée, à cause de notre grande faiblesse. Je ne dis pas sans tentation ou sans rude tentation, mais vraiment que Dieu organise de sorte que, oui, que nous soyons vraiment pas tentés au-delà de nos forces ou empêtrés dans la tentation. Pourquoi est-ce que nous devons prier comme ça? Parce que si vous priez comme ça, les amis, ça veut dire que Dieu vous a amené à certaines dispositions de cœur qui sont au cœur de la vraie piété, la vraie marche avec Dieu. Première attitude. Celui qui prie, ne m'induis pas dans la tentation, mais délivre-moi du mal, il est certainement en train d'acquérir une attitude humble et lucide face à sa propre faiblesse morale. C'est un grand point de noblesse de gagner dans la vie spirituelle. Imaginez Pierre après sa chute, n'est-ce pas? Il est différent. Il est différent. Oh, ne m'induis pas encore dans la tentation, Seigneur. Je me connais mieux. Il y a une sorte de défiance, de méfiance de moi-même qui grandit dans ma vie chrétienne et de vous-même. Et vous ne pouvez pas devenir plus saint sans que cette méfiance de vous-même et de vos capacités de péché grandissent. Deuxième attitude. Une attitude clairvoyante vis-à-vis du monde spirituel maléfique et de la guerre spirituelle qui nous confronte. De plus en plus, nous grandissons et nous savons que Satan est une réalité et sa légion des démons, le monde, la puissance innée de mes propres désirs pécheurs. Et ce monde est réel. Il y a une vraie bataille qui livre à une vraie guerre qui est présente, mais invisible. Et donc j'ai une attitude clairvoyante, je ne marche pas comme si je suis dans la vie civile. Dans la vie civile, je marche comme ça, avec nonchalance. Lorsque tu es dans un champ de guerre, tu ne marches pas comme ça. Tu marches conscient que je vis constamment en péril, en danger. Et je prie comme une personne dans cette situation. Ensuite, ça traduit aussi cette prière, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça traduit une attitude dépendante et confiante envers notre Père qui est notre protecteur et notre défenseur. Parce que rappelez-vous, c'est lui qui nous dit de prier cela et il nous dit de prier comme ça pour que nous soyons exaucés. Il est en train de nous montrer quelle est sa volonté. Je veux ne pas vous induire dans le mal, dans la tentation. Je veux plutôt vous délivrer du malin. Donc, demandez-moi ça. Je vous commande. Je vous dis, vous devez me le demander. Parce que c'est ce que je veux. Et donc, nous avons cette confiance que nous sommes contraints par Dieu lui-même, par son amour et sa grâce, de demander cela parce qu'il veut nous le donner. Donc, cette prière traduit une confiance que, avec la tentation, il nous donnera aussi le moyen d'en sortir. Mais il le fait à travers cette prière constante. Ne nous induit pas dans la tentation. Ça traduit aussi, quand moi je prie et quand vous priez tous les jours, ne nous induit pas dans la tentation, ça traduit une attitude très prévenante. Vous avez remarqué? Que nous sommes en train d'affronter nos tentations avant que nos tentations nous affrontent. Ça alors. C'est comme le soldat. Le soldat ne peut pas simplement réagir lorsque l'attaque lui survienne. Il doit être déjà préparé avant pour que quand l'attaque vient, il a déjà fait face à l'attaque. C'est-à-dire, il a déjà creusé ces endroits où il peut se cacher, il a déjà monté sa défense et là, il est prêt. Nous sommes comme ça. Et souvent, vous et moi, vous êtes tombés parce que vous n'avez aucune prévenance, aucune prière derrière votre vie, votre lutte contre les tentations et vous êtes pris au dépourvu. Et le Seigneur vous dit, ne vivez plus comme ça. Nous voyons le psalmiste a cette attitude prévenante. Il veut affronter la tentation avant que la tentation ne l'affronte. Quand il dit, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore, préserve aussi ton serviteur des péchés présomptueux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Il est en train d'affronter les choses avant. Et Jésus dit aux disciples cette nuit-là, priez afin que vous ne n'entriez pas dans la tentation. Affrontez déjà, maintenant. Montez vos gardes. Amassez vos défenses. Cette requête obtient des résultats. Le chrétien qui prie ainsi, avec cette attitude, obtient réellement, objectivement, du Père sa protection, sa présence puissante contre la tentation. Alors, je termine juste en disant ceci. Cette requête, et c'est la chose la plus importante que je vais vous dire ce matin, parce que je veux vous montrer comment cette requête est au sein de l'Évangile lui-même. C'est-à-dire comment, quand je prie, ne m'induis pas dans la tentation, mais délivre-moi du malin, je suis en train de prier quelque chose qui ne peut pas être sans la grâce, sans que je vive dans un monde de faveur imméritée. Je vous explique. Vous comprenez que dans la requête précédente, pardonne-nous nos péchés, je suis en train de demander à Dieu de me laisser vivre dans un monde de faveur imméritée. Donne-moi le contraire de ce que je mérite vis-à-vis de mes péchés commis. Au lieu de le péché mérite quoi? Le péché mérite la mort et la punition. Mais nous, Dieu nous dit, demandez exactement le contraire, demandez l'acquittement. Et c'est l'évangile. Je vis dans l'évangile par rapport à mes péchés tous les jours, parce que Dieu lui-même m'a dit, demandez le contraire de ce que tu mérites. Demandez l'acquittement, le pardon. Eh bien, c'est la même chose avec cette requête. Parce que mon orgueil, mon indifférence, ma froideur, enfin tous mes péchés méritent que Dieu m'induise souvent dans la tentation, qui me laisse aller, parce que de toute façon, moi, j'y vais de moi-même souvent. Mais je suis en... Dieu me dit, demande exactement le contraire vis-à-vis non de vos péchés commis, mais vis-à-vis des tentations futures, demande exactement le contraire de ce que tu mérites. Demande-moi, ne m'induis pas dans ces tentations, mais délivre-moi d'une manière gracieuse, pleine de bonté, même quand je ne le mérite pas, partout quand je ne le mérite pas. Et enrage Satan, il y a un commentateur qui dit « La source de cette requête ne nous induit pas dans le péché, mais délivre-nous du malin. » La source de cette requête, c'est notre haine envers Satan. Parce que Dieu a dit en Genèse, « Je mettrai inimitié, haine entre... » la semence, le descendant de la femme et le descendant du serpent. Donc, nous sommes ceux qui n'aiment pas Satan, nous n'aimons pas ses voies, nous n'aimons pas ses tentations, et en tout cas, excusez-moi, j'ai fait une parenthèse, mais nous sommes en train de dire, Seigneur, continue cette colère de Satan qui disait, c'est pas juste, tu protèges Job. Il n'est pas soumis à la vraie épreuve pour voir si lui-même, face à moi, il peut s'en sortir. Et Seigneur, fais avec moi comme Job. Donne-moi une situation qui n'est pas juste vis-à-vis de Satan. Mais comment est-ce que Dieu peut faire ça? Comment est-ce que je peux ne jamais subir une vraie épreuve complète vis-à-vis de Satan, et puis être dans la position de celui qui est vainqueur de Satan à la fin de ma vie? C'est parce que Christ est venu et il a subi de plein fouet la tentation du Satan. Il est entré dans la tentation pour vous. Et lui, à votre place, il a réussi. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire l'épreuve. L'épreuve a été faite et Christ l'a remportée pour vous. Et ça veut dire que Dieu peut maintenant vous donner beaucoup plus que vous ne méritiez. Et vous donner cette vie chrétienne où vous n'êtes pas protégé de toute tentation. Vous en avez besoin de toute façon. Mais vous êtes protégé d'être livré à des tentations qui sont au-delà de vos forces et qui vous mènent à être empêtré dans une situation qui est impossible pour vous. Donc, le Seigneur nous amène à prier pour une grâce imméritée, pour une vie bénie, lorsqu'il nous dit lui-même de prier, « Ne m'induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, moi, plutôt du malin. »